Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais d'abord m'adresser uniquement à vous, mesdames, et évoquer un homme dont voici les qualités. Il était grand, beau, fort, noble, riche, courageux, tolérant, travailleur, intelligent, énergique, inventif, généreux, charmeur, chevaleresque, enjoué, intuitif, éloquent, diplomate, patriote et enfin professionnel jusqu'au bout des ongles. Je vous entends frémir tout en vous disant intérieurement que cet homme n'existe pas ou n'a jamais existé, mais ne vous y méprenez pas, ses contemporains disaient aussi de lui qu'il était imprudent, ambitieux, mesquin, vaniteux, intrigant, bavard, égocentrique, capricieux, manipulateur, cyclothymique et passablement mythomane. Le prince Louis de Battenberg, puisqu'il s'agit de lui, devenu en 1917 Lord Louis Mountbatten, marqua incontestablement le XXe siècle de son empreinte. Tout d'abord en vivant et en participant activement aux deux guerres mondiales, mais aussi en ayant un rôle de premier plan dans le mouvement de décolonisation de l'Inde. Personnage incontournable, s'il en est, de l'histoire britannique, Louis Mountbatten fut aussi au centre d'un arbre généalogique impressionnant où se côtoient rois, reines et princes de toute l'Europe. Alors qui fut réellement, mesdames, Lord Louis? Quel rôle joua-t-il, messieurs, dans les deux conflits majeurs du XXe siècle et dans la décolonisation de l'Inde? Quelles furent les raisons de son assassinat ce 27 août 1979, un assassinat provoqué par une bombe posée par l'IRA sous son bateau de pêche? C'est ce que je vous propose de découvrir avec François Kersaudy. François Kersaudy, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. C'est la deuxième fois que je vous reçois au micro d'Un jour dans l'histoire. Nous avions évoqué ensemble les relations De Gaulle-Roosevelt à la suite de votre publication sur le sujet chez Perrin. Alors, votre actualité littéraire est assez fournie. Vous venez de sortir chez Perrin toujours un ouvrage consacré à l'affaire Cicéron, dont nous reparlerons dans les portraits d'Un jour dans l'histoire. Et vous êtes aussi l'auteur d'une biographie chez Payot, consacré à Lord Mountbatten. Lord Louis Mountbatten, à propos duquel on est surpris de voir la pauvreté historiographique. Pourquoi, François Kersaudy, l'histoire peine à se pencher sur ce destin formidable, comme nous allons le voir?
Écoutez, en Angleterre, on en a quand même un petit peu parlé. En France, il n'y a jamais eu de biographie de Mountbatten. C'est ce qui m'a un petit peu poussé à voir cela de plus près. Il gagne à être connu parce que, bon, le sous-titre de livre, c'est l'étoffe des héros. Si on n'en parle pas, c'est qu'on a un petit peu perdu de vue, je crois, ce que c'est véritablement qu'un héros. Si vous demandez aux jeunes de nos jours, ils vous diront un héros, c'est quelqu'un qui tape dans un ballon devant la télévision ou bien qui belle une chanson devant cette même télévision. Et le héros tel qu'il était conçu au XXe siècle, ça n'était pas du tout ça. C'était quelqu'un qui avait fait quelque chose de décisif pour son pays, lors d'un événement d'une grande portée, qui avait pris des risques et qui avait changé le cours de l'histoire. Et vous savez, c'était le général de Gaulle qui disait « un grand homme, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de définitif ». Eh bien, à l'aune de ce critère, je crois qu'on pourra le démontrer, Mountbatten était à l'évidence un grand homme. Il a changé à plusieurs reprises le cours de l'histoire.
Alors, je viens de le dire, avant de s'appeler Mountbatten, votre héros s'appelait Louis Battenberg. Avant d'en voir les raisons, pourriez-vous nous parler tout simplement de ses origines?
Oui.
C'est un homme qui naît avec le siècle?
Alors, il naît avec le siècle. Il est baptisé dans les bras de la reine Victoria, ce qui est normal puisque c'est son arrière-grand-mère. Et il est le fils, donc à la fois de la petite fille préférée de la reine Victoria et du prince de Battenberg, qui était un prince de Hesse, qui avait décidé, chose curieuse vu la situation de Hesse qui est en milieu des terres, il avait décidé d'entamer sa carrière dans la marine britannique, la Royal Navy, à l'âge tendre de 14 ans. Et donc, il était devenu plus anglais que les Anglais. Il avait gardé un accent quand même très guttural, il faut bien le reconnaître. Mais au début de la Première Guerre mondiale, eh bien, le prince Louis de Battenberg était le premier lord naval, c'est-à-dire le deuxième personnage de la marine, après le ministre de la marine lui-même, qui était Winston Churchill. Et c'était son adjoint, et c'était l'homme le plus capable qui commandait la flotte de la Royal Navy. C'était donc un Allemand d'origine qui commandait la flotte anglaise, ce qui lui a joué des tours. Et a joué des tours à l'Angleterre, d'ailleurs, parce que en 1914, les choses n'allaient pas très bien sur mer au début de la guerre pour l'Angleterre. Et l'Angleterre était prise d'une frénésie anti-allemande qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, on jetait des pierres contre les commerces allemands, on insultait les nurses allemandes et on donnait même des coups de pied dans la rue aux bergers allemands, qu'il a même fallu rebaptiser en catastrophe des Alsaciens pour qu'ils aient la paix. Et comme on a rebaptisé les bergers allemands, on s'est dit qu'il fallait aussi rebaptiser les personnes d'origine allemande en Angleterre, à commencer par le roi. Car le roi, Georges V, c'était un Saxe-Cobourg-Gotha, et donc il fallait faire oublier ça rapidement, et donc on l'a rebaptisé Windsor. La dynastie, au lieu d'être Saxe-Cobourg-Gotha, c'est devenu Windsor. Et naturellement, toute sa famille, ses cousins, ont été rebaptisés de la même façon. Et Battenberg a été transformé et traduit littéralement en Mountbatten, traduction littérale, qui faisait évidemment infiniment plus anglais. Et c'est comme ça que les Battenberg sont devenus des Mountbatten, et que le jeune Louis, fils donc de l'amiral Mountbatten, est devenu lui-même Lord Louis Mountbatten.
Avant de revenir sur cette Première Guerre mondiale qui est très importante dans la vie de Lord Louis, peut-être ce qu'il y a d'impressionnant, c'est cette arbre généalogique au début de votre ouvrage. Il est au milieu d'un arbre impressionnant qui compte de multiples reines, de multiples rois.
Ah oui. Il est le neveu de toutes les têtes couronnées d'Europe, depuis le tsar jusqu'au roi d'Espagne, en passant par le Kaiser, il les connaît tous. Il a passé toute son enfance dans tous les palais d'Europe. Et donc, de la Grèce jusqu'à la Suède, il est apparenté à tout le monde. Et naturellement, il est le cousin du roi d'Angleterre. Et donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une grande partie de ses succès s'explique par le fait qu'il est le cousin du roi d'Angleterre. Ça lui a ouvert des portes. Ça lui en a fermé aussi, d'ailleurs. Mais enfin, ça a quand même changé beaucoup de choses.
Il est très tôt polyglotte ?
Ah oui. Il est très tôt polyglotte parce que dans sa famille, tout le monde parlait à la fois anglais, allemand, russe et français. Donc le russe, c'était pas tout à fait ça, mais pour le reste, il était largement trilingue.
Arrêtons-nous quelques instants sur l'enfance. Je donnais les qualités de l'homme tout à l'heure. L'enfant, visiblement, dites-vous, était gâté par sa mère et n'avait pas beaucoup de qualités, puisque vous dites, c'était un petit garçon capricieux, boudeur, vantard et dissipé. Ce n'est pas l'enfance d'un prince, il n'est pas...
Il a été horriblement gâté par ses deux sœurs, par son frère aîné, par sa mère. Jusqu'à 9 ans, d'ailleurs, il n'a pas été à l'école. Il y avait des précepteurs. Et puis sa mère s'occupait de son éducation, ce qu'elle faisait très bien. Et puis quand il est arrivé à l'école, il est resté très vantard et très dissipé. Et puis il écrivait à son père, « J'aime bien l'école, le seul problème, c'est qu'il y a tellement de cours. » Il trouvait que c'était il ne connaissait que les palais. D'un seul coup, il se retrouve en enfer. Et donc... Il aurait dû tourner les talons et rentrer dans ses palais familiaux. Or, il ne le fait pas. Et il ne le fait pas parce que ce dont il est question dans cette académie navale, ce sont des choses que lui, il a déjà connues toute sa vie. Les ponts des navires, la navigation, la trigonométrie, la balistique, tout ça, ce sont des choses, il a tout le temps entendu parler de ça, il a vécu avec ça jusqu'à l'âge de 13 ans, donc évidemment, d'emblée, il est plus doué que ses camarades, parce que tout ça est déjà formé dans son esprit, il a vécu pour la mer, il vit pour la mer, et toute sa vie, il vivra pour la mer.
Je reçois François Kersaudy, auteur de la biographie sur Lord Mountbatten, l'étoffe des héros, une biographie publiée chez Payot. Nous nous retrouvons dans un instant.
La médiathèque de Canal Académie, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Académie. Le téléchargement est gratuit.
Un jour dans l'histoire reçoit François Kersaudy, historien, spécialiste de l'histoire du XXe siècle et notamment de l'histoire britannique. Vous avez publié, François Kersaudy, une biographie de Lord Mountbatten, l'étoffe des héros, parue chez Payot. Alors nous avons évoqué sa jeunesse, j'en viens tout de suite à la Première Guerre mondiale. N'est-il pas trop jeune pour monter sur les bateaux militaires ?
Oui, il a 16 ans, mais il est sorti dans les premiers de l'Académie navale et ceux qui sortaient dans les premiers avaient le grand privilège de pouvoir aller se battre. Et donc, il en a immédiatement fait usage, c'était son rêve, il voulait pas que la guerre s'achève sans qu'il ait pu y participer, c'était le patriotisme, c'était déjà l'idée que si on ne servait pas sa patrie, on ne servait à rien. Donc, il a insisté et il est monté sur le navire amiral, l'amiral Beatty, justement, qui est devenu commandant en chef de la flotte l'année d'après, et il l'a suivi sur tous ses navires. Et il a eu très tôt une formation, évidemment. Dès 16 ans, il a vu des actions navales. Bon, il est vrai qu'après la bataille du Jutland, il est arrivé après la grande bataille navale avec l'Allemagne. Après, il n'y en avait plus beaucoup. C'était des missions de minage ou de déminage en mer du Nord. Il y a des escarmouches, mais enfin, il n'a pas participé à des combats majeurs. Ceci dit, c'était une vie quand même extrêmement pénible, que lui appréciait beaucoup, et il a reçu une formation quand même extrêmement complète quand on y pense. Entre l'âge de 16 ans et de 18 ans, il a servi sur un destroyer, sur un croiseur, dans un sous-marin, il a été formé par la RAF, donc il a volé, on l'a envoyé pendant 2 semaines dans les tranchées de la Somme, où il a appris que l'expérience de vie d'un lieutenant était de 2 semaines, il a trouvé que c'était excessif, donc il est reparti, et puis on l'a mis commandant en second d'un patrouilleur, donc à 18 ans. Il est commandant en second d'un patrouilleur, le P-31. Il a 50 hommes sous ses ordres. Il mesure déjà 1m85 et il a visiblement un don parfaitement inné pour le commandement. Et il a des relations et il sait s'en servir. Et c'est comme ça qu'il finit la guerre.
Oui, il a vraiment un charisme extraordinaire très tôt.
Ah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, il a hérité de son père le don du commandement, l'amour de la mer et la façon de se mouvoir à la fois sur les mers et dans les palais et dans la politique et dans les relations utiles. Tout ça, il sait faire d'instinct.
Est-ce que cette première guerre va le marquer ? Parce que au fond, elle met les uns en face des autres, des peuples dont il connaît les princes. Il est au courant de ce qui se passe, par exemple en 1917 en Russie. En face, il y a également Guillaume II qui finalement est un de ses grands oncles. Oui. Comment réagit-il par rapport à ce sentiment d'une guerre de peuple à peuple alors qu'il est lié par la famille à ses princes ?
Eh bien, il y a deux choses. Par rapport à l'Allemagne, il se considère comme parfaitement anglais. Donc à la fois, il comprend les Allemands qui sont de l'autre côté, mais il les comprend en tant qu'anglais, et il n'a pas du tout de... Comme d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'a absolument aucun cas de conscience. Son allégeance, c'est à l'Angleterre, il est anglais, et ça ne se discute pas. Pour le reste, par exemple, ce qui s'est passé en Russie, Mountbatten l'a vécu comme une véritable tragédie. Le tsar était son oncle, et l'exécution de la famille du tsar, ses cousines, les grandes duchesses étaient ses cousines, il faut bien le dire, et il était amoureux de l'une d'entre elles, qui s'appelait Marie, et qu'il avait juré d'épouser à l'âge de 13 ans. Leur disparition, surtout dans les conditions atroces où elles se sont déroulées, a été pour lui une tragédie absolue. Il a perdu énormément de membres de sa famille, aussi bien des Allemands que des Russes, que des Anglais. Vraiment, il a vécu ça comme une tragédie. D'ailleurs, lui-même est passé assez près plusieurs fois de la mort, mais avec panache. Lui considérait que, de toute façon, il a toujours considéré toute sa vie que la mort faisait partie de l'engagement et que si on était officier, c'était bien pour risquer sa vie et s'il y avait une pénalité à payer, ça faisait partie de la carrière. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui a toujours eu, comme Churchill d'ailleurs, un mépris souverain pour le danger. Le danger, ça fait partie des à côté du métier, c'est comme ça. La mort, si on meurt, on meurt et puis il faut le faire au service du pays. Donc, il n'y a aucune raison d'essayer de l'éviter. Donc, le courage était inclus dans la mission. Et c'était un homme d'un courage, je dirais même d'une témérité qu'on ne rencontre dans le siècle que chez une toute petite demi-douzaine de personnes. Churchill, bien sûr, Clémenceau, De Gaulle, mépris souverain du danger. Parmi les grands, vous avez une petite demi-douzaine.
Ce qui est vraiment étonnant de la part d'un garçon qui n'a pas encore 20 ans, vous écrivez, c'est un enfant qui est entré dans la guerre et un homme qui en est ressorti.
Ah oui, absolument. Mmh. Oui. Ah oui, oui, oui. On le voit en 14, on le voit en 18. Ça, c'est vraiment... Il a été formé par la guerre, ça ne fait aucun doute.
Alors, il continue son cursus, hein, parce que ce n'est pas parce qu'il a participé à la guerre qu'il doit arrêter ce cursus après la guerre. Il entre à Cambridge, il s'impose très vite, il a un tempérament de chef, un charisme naturel, nous en avons déjà parlé. Alors, il y a un événement qui est assez unique, c'est qu'il part en voyage très longtemps avec le prince de Galles.
Voilà, le prince de Galles, son cousin, donc celui qui doit devenir le roi, hein, et Édouard, David pour les intimes, qui est dépressif, alors que Mountbatten est un bout en train. C'est un joyeux luron, Mountbatten. Et en dehors des périodes de service, il veut s'amuser. Quand il s'amuse, il ne le fait pas à moitié. Et il exerce une très grande influence sur son cousin, qui, je vous l'ai dit, est un dépressif, qui n'est pas du tout fait pour être roi, qui a des relations très dures avec son père, qui lui-même, George V, qui est quelqu'un lui-même de très dur. Et par conséquent, le cousin l'emmène en croisière, et dans la croisière où il sert un petit peu d'aide de camp, il sait se rendre indispensable et surtout faire des programmes aux escales qui ont le don d'égayer un petit peu le prince de Galles. Et ça devient assez rapidement son cousin préféré, une sorte de grand frère. Et l'expérience est tout à fait enrichissante pour les deux. Ils vont jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans une croisière. Et puis dans une deuxième croisière, ils vont jusqu'en Inde et au Japon, hein, sur le yacht royal. Ils sont très bien accueillis aux étapes, notamment par les jeunes filles locales. Donc, ça, évidemment, ça crée des liens. Et ils voient du pays, ils découvrent beaucoup de choses. Il faut voir que Mountbatten découvre le Japon en 1922. Et déjà, là, c'est intéressant parce qu'on voit que cet homme-là a une vision, un regard d'aigle. Parce que, à la fois, ils sont magnifiquement accueillis au Japon de 1922. Et pourtant, dans son journal, Mountbatten écrit, hein, il est jeune, il a 22 ans, hein, il écrit... oui, les Japonais sont très aimables, très gentils, très souriants, très polis, etc. Et puis, vous voyez, au détour d'une page, il écrit « C'est une guerre avec ces gens-là que je redoute ». Extraordinaire, parce que quand même en 1922, il n'y avait pas vraiment de raison de penser qu'il avait saisi une atmosphère, et ça, un jour ça tournera mal. Et très souvent, il a ce don de prévision.
Il sent les choses et en même temps, il est très curieux.
Ah oui, il est très curieux et très intuitif, ça c'est certain.
Alors, il y a un événement dont nous n'avons pas parlé encore, c'est la date du 21 juillet 1921, oui, c'est une date importante, puisque c'est la rencontre de sa future épouse, Edwina Ashley. Qui était Edwina Ashley?
Voilà, alors Edwina Ashley, c'est la petite fille d'Ernest Cassel. Et qui était Ernest Cassel? C'était Sir Ernest Cassel, d'ailleurs. C'était un banquier d'origine juive allemande, qui avait fait fortune en Angleterre et qui avait été anobli, d'ailleurs. Et qui avait une fortune colossale. Sa petite fille en était l'héritière, Edwina. Edwina en hommage au roi Édouard VII. Et c'était une très belle jeune fille, avec beaucoup de caractère. Et Mountbatten, qui avait à la fois l'habitude de tomber amoureux très vite et de mener ses affaires au pas de charge... parce que c'est comme ça qu'on lui avait appris, eh bien, non seulement il est tombé amoureux, mais très peu de temps après, il lui a proposé de l'épouser. Et étant donné le charme du personnage, il a réussi, il faut bien le dire.
Les choses se font malgré l'état d'Edwina, qui est richissime. Et à un moment, cet état a failli remettre en cause ce mariage. Eux, ils passent outre. Ce n'est pas la richesse qui lui fait peur. Un jour, lors de son voyage, on lui dit qu'il n'a plus guère à travailler. Et il répond « J'ai le plus grand mépris pour les hommes qui ne font rien. Quant à moi, je n'arrêterai jamais de travailler. »
Voilà, ça c'est Mountbatten, absolument. Il a travaillé toute sa vie, il ne peut pas, l'oisiveté pour lui c'est quelque chose de totalement indigne, ça c'est l'éducation de son père, il a une carrière, il a une ambition, il veut servir à quelque chose, il veut faire des choses, et donc c'est un hyperactif, mais un vrai, au sens vrai, compulsif, et le service du pays c'est son idéal, Et il faut qu'il se distingue, il faut qu'il fasse des choses, qu'il crée. Il est en mouvement perpétuel, cet homme-là. Quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas de service, alors il invente, il recherche, il crée des équipes. Il est toujours en mouvement. C'est un peu fatigant, d'ailleurs. Mais très professionnel, très, très professionnel. Il est anglais, il se veut anglais jusqu'au bout des ongles, mais il y a cette espèce d'exigence germanique, vous savez, le Gründlichkeit, c'est le faire les choses à fond. Et ça, c'est purement germanique, ça.
Alors, cette citation est tirée d'un moment particulier qui est son voyage de noces aux États-Unis, et il va nouer énormément de contacts aux États-Unis. Et tout au long de sa vie, tous ces contacts, qui sont des contacts plus ou moins mondains, lui serviront. Par exemple, aux États-Unis, il noue des contacts avec le cinéma. Et bien, grâce à ces contacts, pendant la Deuxième Guerre, il va pouvoir faire profiter les militaires du cinéma américain.
Absolument. Ah oui, oui. En 22, pendant le voyage de noces, ils avaient été à Hollywood. Ils avaient été très bien reçus par tous les grands producteurs d'Hollywood. C'était vraiment la coqueluche d'Hollywood, le couple. Et il a gardé ses attaches, y compris avec des gens comme Cécile B. 2000, comme Charlie Chaplin. Et c'est vrai qu'ils avaient pris l'habitude de lui envoyer leurs films en exclusivité. Et au milieu des jungles birmanes, en 1943 et 1944, les soldats de Mountbatten pouvaient voir, avant tout le monde, en exclusivité, les films d'Hollywood et les grandes actrices, et les grands acteurs, et les chanteurs qui étaient des amis personnels de Lord Mountbatten et qui venaient se produire dans des coins de jungle complètement pourris, eh bien, ça faisait des miracles pour le moral des troupes, parce qu'évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait voir des choses pareilles. C'était un fanatique de cinéma. Quand il commandait des escadres, eh bien, il créait des salles de cinéma dans tous les destroyers de la flotte. Avant la guerre, c'était quand même étonnant. Et puis, les projecteurs, évidemment, c'est du cinéma muet. Donc, c'est lui qui a bricolé le système pour l'adapter au cinéma parlant. Il a fait ça lui-même, avec les pièces détachées qui se trouvaient dans le navire de réparation. Donc, tout ça, c'est Mountbatten. Il faut... Le moral des hommes, c'est essentiel. Et puis, si on n'a pas ce qu'il faut pour élever le moral, eh bien, on l'invente. C'est un homme qui a inventé toute sa vie.
Alors, faisons un bond dans le temps. Quelles sont les relations de Mountbatten avec le monde politique, avec l'actualité politique des années 30? C'est ce que je vous propose de voir, François Kersoli, après cette deuxième pause. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois François Kersoli, historien, auteur de la biographie Lord Mountbatten, l'étoffe des héros, paru chez Payot. Alors, nous avons largement évoqué le personnage. Nous quittons les années 20. Nous faisons un bond dans les années 30. Et dans les années 30, surtout la deuxième...
Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Par exemple, il est allé voir les premiers ministres du moment. Bah, d'abord Baldwin, ensuite Chamberlain, pour essayer de les persuader que l'apaisement de l'Allemagne, ce n'était pas une bonne idée et que le désarmement unilatéral, non plus. Eh bien là, il a échoué.
Ouais.
Par contre, quand...
Il se distingue dans la population britannique comme étant contre l'appeasement. Il n'est absolument pas la dupe d'Hitler.
Absolument pas. Absolument pas. Il avait le plus grand mépris pour Hitler, d'ailleurs. Il a compris tout de suite, très vite, qui était Hitler. Et il faisait partie des informateurs de Churchill. Vous savez que dans ces époques-là, Churchill était en train d'essayer de réunir des informations. Il faisait une grande campagne pour le réarmement britannique. Parmi ses informateurs et ses plus grands soutiens, il y avait Lord Louis Mountbatten qui lui expliquait ce qui n'allait pas dans la marine et qui lui expliquait ce qu'il pouvait savoir, apprendre par sa famille de ce qui se passait en Allemagne. Donc il avait aussi de bonnes sources d'informations.
Je me permets de le citer. Hitler est comme un homme à vélo, il lui faut continuer à pédaler sous peine de tomber, il ne peut rester stationnaire.
Mais absolument, il avait très bien compris. Il avait très bien compris Hitler, il n'y a aucun doute.
Alors arrive la Seconde Guerre mondiale, que va faire Mountbatten?
Alors au début de la Seconde Guerre mondiale, Mountbatten il a le commandement d'une flottille de destroyers. Et là, il se passe des choses extraordinaires parce que c'est un capitaine de navire qui est héroïque, on peut le dire, mais qui est aussi téméraire. C'est un extraordinaire casse-cou. C'est quelqu'un qui, par exemple, en mai 40, entre avec ses destroyers au fin fond d'un fjord norvégien pour évacuer 3000 soldats britanniques qui sont en difficulté. Il fait ça de nuit, dans la brume, au milieu des bombardements, parmi les récifs, parmi les épaves dérivantes. Et il arrive à embarquer tout son petit monde en 3 heures et à sortir du fjord sans que son navire soit rasé. Ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que quand on est encaissé dans un fjord et puis que vous avez 3 escadrilles au-dessus de vous qui vous lâchent des bombes, on a quand même très peu de chances de vous rater. Et là, en l'occurrence, ils ont manœuvré de telle façon, surtout qu'il y avait des récifs au milieu de tout ça, ils ont réussi à sortir du fjord avec les soldats. Donc là, vraiment, c'est héroïque. Plus héroïque encore...
L'histoire du Kelly.
Alors, le Kelly, il est torpillé. Il est torpillé, vous avez une torpille qui frappe sous la ligne de flottaison et qui ouvre un trou dans la coque suffisamment grand pour qu'on y fasse pénétrer de front 2 autobus impériaux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la taille du trou, mais c'est vraiment beaucoup. Normalement, le destroyer, il doit chavirer avec un trou pareil. Bon, Mountbatten fait évacuer la plus grande partie de l'équipage parce qu'il pèse trop lourd. Et ensuite, il dit, bon, ben voilà, je vais ramener le destroyer en Angleterre. Il dit, mais attendez, c'est pas possible, il peut chavirer à n'importe quel moment. Et Mountbatten est resté sur la passerelle pendant 91 heures d'affilée pour ramener son bateau en Angleterre. Et il l'a fait. Ça, évidemment, on peut difficilement faire plus héroïque que ça. Ça, c'était Mountbatten. Et puis, en même temps, Mountbatten, c'est un petit peu la guerre en dentelle. Il n'a pas de haine contre l'ennemi. On a retrouvé la correspondance d'un capitaine de sous-marin. C'est Mountbatten qui a coulé le premier sous-marin allemand au début de la guerre. Et le capitaine allemand a raconté sa capture. Il a dit on a été grenadé, on a été obligé de faire surface. Et puis là, on voulait se battre, mais bon, il y avait 6 destroyers qui nous entouraient avec leurs canons braqués sur nous. Donc on a dit non, quand même, on va pas mourir pour le Führer comme ça, ce serait trop bête. Et donc, justement, au moment où on allait couler, on a tous sauté à l'eau, on a été recueillis. Et j'ai été recueilli par un capitaine qui m'a traité comme un naufragé plutôt que comme un ennemi. Je pensais qu'on allait me mettre à fond de cale, ce qu'on aurait fait nous si la situation a été inversée. Pas du tout. On m'a donné la cabine d'un officier qui était en congé. Et puis, je me suis retrouvé devant un capitaine qui parlait allemand mieux que moi, mon allemand étant prolétaire, le sien étant aristocratique. Et puis, quand on nous a débarqués, avant de me remettre à l'armée, le capitaine, c'était Mountbatten, m'a dit « Est-ce que vous pourriez me rendre un service ?» Et l'allemand dit « Je ne vois pas très bien ce que je peux faire pour vous. » Il dit « Est-ce que vous accepteriez de signer notre livre d'or ?» Le capitaine allemand dit « Mais enfin, capitaine, vous vous rendez compte que nous sommes en guerre ?» Et Mountbatten répond « Mais ça n'a rien à voir. Vous nous rendriez service, nous serions très obligés si vous le faisiez. Vous seriez le 2e signataire de notre livre d'or. » Et le capitaine allemand demande « Puis-je demander qui était le premier ?» Et Mountbatten lui répond « Oui, pas de problème, c'était le roi. » Et le capitaine allemand dit « Je suis parti à essayer de décontenancer en captivité tout de même. » Mais ça, c'était Mountbatten. C'était tout à fait typique.
Alors, Churchill est sur le chemin de Mountbatten et Churchill ne tient absolument pas à voir Mountbatten touché par une balle ou par un tir d'avion. Donc, il veut absolument s'en servir pour des relations beaucoup plus diplomatiques. Il est envoyé aux États-Unis, mais surtout, il veut lui donner un rôle pendant cette guerre à la tête d'une institution que Churchill crée lui-même.
Oui, c'est la direction des opérations combinées. Il faut voir que, alors, entre-temps, parce que c'est un terrible casse-navire, ce Mountbatten, à chaque fois qu'il allait en mer, il arrivait des choses atroces. Il avait toujours un navire tué sous lui. Et d'ailleurs, il y a un amiral anglais qui a dit « Il n'y a personne que j'aimerais mieux avoir avec moi en cas de coup dur que Lord Louis Mountbatten ». Puis il avait ajouté « Et il n'y a personne qui m'y mettrait plus sûrement dans le pétrin ». Et donc, oui... C'était un petit peu ça. Et d'ailleurs, en Crète, son destroyer a été coulé. Il a été carrément coulé au large de la Crète. Mountbatten, là encore, a eu une action héroïque parce qu'il a sauvé pratiquement tout son équipage, ce qui était quand même pas facile à faire. Et il a réussi à rejoindre Alexandrie sur un autre destroyer qui lui-même était en très mauvais état. Mmh. Donc, il s'était taillé une solide réputation de héros. Churchill, à cette époque, là, on est à l'automne de 1941, ce que Churchill veut faire, c'est faire rentrer les États-Unis dans la guerre. Or, Churchill, vous savez, c'est un propagandiste de génie. Et il s'est dit, en présentant aux Américains ce Mountbatten, qui est déjà très connu là-bas, dont on connaît les actions héroïques depuis 2 ans, qui a un charme fou, on va certainement décider les Américains à entrer dans la guerre. Et donc, il lui dit, écoute, il le tutoyait parce qu'il le connaissait depuis l'âge de 3 ans, hein, il faut bien
vous
le connaître.
Vous racontez d'ailleurs
c'était
leur
le
première
fils.
Rencontre.
Oui, c'était la première rencontre à l'Académie navale. C'était quand même le fils de son ancien premier lord naval. Il y avait une relation un petit peu paternelle vis-à-vis de lui, hein, ça ne fait aucun doute. Churchill, Mountbatten était un petit peu le fils que Churchill aurait préféré avoir. Son fils à lui était certes courageux, mais très alcoolique et n'a jamais rien fait de sa vie. Alors que Mountbatten, évidemment, c'était le type du jeune héros flamboyant. Le type que Churchill admirait par-dessus tout. Churchill avait un faible pour les héros. C'était les personnages flamboyants, héroïques. Et là, en même temps, c'était un outil de propagande extraordinaire. Grâce à ça, il allait faire de la propagande aux États-Unis. Donc il lui dit, on va te donner le commandement d'un porte-avions, mais avant, pourquoi ne pas aller en tournée de propagande aux États-Unis ? Et donc, Mountbatten va en tournée de propagande aux États-Unis. Il est reçu partout.
Chez Roosevelt,
qu'il admirait beaucoup. Il fait des conférences devant 1000 officiers de marine. Et on l'emmène à Pearl Harbor. L'Américain était très fier de Pearl Harbor en octobre 41. Et Mountbatten admire. Mais il dit, il y a quand même une chose. Je vous signale, dit-il. Là, ça m'embête de vous dire ça comme ça, dit-il aux amiraux. Américain, mais je remarque que ce Pearl Harbor est très très mal défendu. Il y a un certain nombre de choses que vous pourriez faire pour améliorer les défenses de Pearl Harbor, qui est très vulnérable. Et il leur fait un petit plan de ce qu'il faudrait faire. Et l'amiral commandant en chef lui dit avec le sourire, j'ai bien peur que si on mettait tout ça à exécution, votre visite nous coûterait très cher. Évidemment, 2 mois après, ils se sont aperçus que ça coûtait encore beaucoup plus cher de ne pas avoir mis en œuvre les recommandations de Mountbatten. Parce qu'évidemment, Pearl Harbor, les Japonais l'ont attaqué 2 mois après. Mais Mountbatten a un œil d'aigle, il avait repéré tout de suite les points faibles des défenses de l'endroit qu'il visitait. Mais ceci dit, en octobre, juste avant de faire une deuxième visite à la Maison Blanche, il est convoqué d'urgence à Londres et là, Churchill lui dit, oublie le porte-avions, je te nomme directeur de la direction des opérations combinées. Qu'est-ce que tu en penses ? Et Mountbatten dit, je préférais reprendre la mer. Et Churchill, lors de lui, lui dit « Et qu'est-ce que tu comptes y faire en mer, à part être coulé dans un bateau encore plus grand et encore plus cher ?» Évidemment, vu sous cet angle, et Mountbatten est obligé de céder et il va devenir chef de la direction. Ça ne fait aucun doute. Et ensuite, il y aurait eu une guerre entre l'Inde et le Pakistan quand les deux pays sont devenus indépendants. L'Inde doit énormément à Mountbatten. Ça ne fait aucun doute.
Pourquoi l'IRA ? J'évoquais au moment de mon introduction le fait qu'il ait été assassiné par l'IRA. On est étonné parce que finalement, l'Irlande intervient dans son histoire qu'à la fin de ses jours.
Oui, alors, il faudrait encore toute une émission pour raconter ce qui s'est passé entre son retour des Indes en triomphe. Là, il a été nommé carrément comte par le roi. Sa carrière subséquente, où il est arrivé quand même au dernier échelon de la hiérarchie militaire britannique, c'était l'homme incontournable. Hein. Il a pris sa retraite en 1965. Et il avait un château en Irlande, qui héritait de son épouse, qui elle est morte tôt, elle est morte en 1960, elle était cardiaque, et il allait tous les ans en vacances en Irlande. Dans sa carrière, il n'avait jamais eu affaire à des Irlandais. Il s'est mêlé de tout, mais alors l'Irlande, il était totalement étranger, et c'est pourquoi il pensait être totalement en sécurité, il ne voyait absolument pas pourquoi on pourrait lui en vouloir. Et en 1979, moi je l'ai rencontré en juin 1979. J'étais allé l'interviewer au sujet des relations entre Churchill et De Gaulle. Il avait bien connu les deux. Il m'avait parlé de la résistance. Il m'a parlé d'un nombre de choses. C'était un homme à 79 ans qui était encore en très grande forme. On était à peu près certain qu'il arriverait au 21e siècle sans gros problème. Et puis, ce qu'on ne savait pas, ce que lui ne savait pas non plus, c'est que les Irlandais, l'armée républicaine irlandaise, avait besoin de frapper un grand coup. Le fait que Mountbatten n'ait eu aucun rapport avec l'Irlande, en fait, ça n'avait rien à voir. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était de la publicité. Et s'il a souvent réussi dans sa vie, c'était par ses relations familiales. S'il est mort, c'est aussi à cause de ses relations familiales. C'est parce que, en tuant un membre de la famille royale, puisqu'il l'était, on se faisait une publicité maximum. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'on l'a tué. Et lui n'a jamais imaginé une seconde qu'on pourrait lui en vouloir. Il ne voyait pas pourquoi. Il allait en vacances en Irlande depuis 20 ans, et donc il ne s'est pas méfié du tout.
Eh bien, François Kersoy, merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs à votre livre paru chez Payot, Lord Mountbatten, l'étoffe des héros. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire.